Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Pier Giorgio Frassati a été canonisé par Léon XIV le 7 septembre dernier. Comme l'a dit le Saint-Père ce jour-là, Saint Pier Giorgio est une invitation adressée à nous tous, surtout aux jeunes, à ne pas gâcher la vie, mais à l'orienter vers le haut et à en faire un chef-d'œuvre. Laissons ce jeune saint nous donner aujourd'hui sa leçon de sainteté. Saint Pier Giorgio Frassati, un modèle de saint laïque, nous le découvrons ou nous l'approfondissons aujourd'hui. Nous approfondissons son exemple avec nos trois invités. Michel Roure, membre de la fraternité Pier Giorgio Frassati depuis 25 ans. Bonjour.
Bonjour.
Frère Guillaume-Marie, dominicain et responsable du groupe Montagne Pier Giorgio Frassati. Bonjour frère.
Bonjour.
Et enfin Lilian Chaboud, membre de ce même groupe de Montagne. Vous êtes en direct par téléphone pendant votre pause déjeuner au bureau. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous trois d'être présents pour nous parler de cette belle figure de sainteté qui est Pier Giorgio Frassati. On va prendre quelques points de repère hein, pour faire connaissance. Je vais essayer d'aller vite. Pier Giorgio Frassati est né en 1901 à Turin. Dès l'enfance, il a été fasciné par Dieu. Il va communier depuis ses 12 ans jusqu'à sa mort. Il a été initié par sa mère aux joies de la montagne. Il y emmène ses amis. Il reste attentif au rythme de chacun. Il était aussi sensible à la misère, il a multiplié les actes de générosité et il était membre de la société Saint-Vincent de Paul. C'était un jeune homme joyeux et pour obéir à sa mère, il a renoncé à être prêtre. Et c'est en tant que laïc célibataire que Pier Giorgio vit pleinement son engagement chrétien. Et c'est pour ça qu'en 1922, il se joint au tiers ordre dominicain. Alors qu'il termine son diplôme d'ingénieur des mines, il contracte au chevet d'un malade la poliomyélite et qui en 6 jours entraîne sa mort. Il est donc mort le 4 juillet 1925. Ses obsèques rassemblent une foule immense. Elle pleure celle qu'elle appelait le saint de Turin. Voilà, c'est après ces petits rappels, j'aimerais bien que nous commencions tout de suite par cet exemple joyeux de sainteté. Hein. On dit que Pier Giorgio chantait, riait, taquinait même. C'est parfois un contraste qu'on peut se faire avec cette idée qu'on se fait souvent des saints qui sont représentés comme des personnes sérieuses. Saint Jean-Paul II avait appelé Frassati le jeune des béatitudes. Pour vous, comment cette joie se manifestait et en quoi était-elle le signe ? Frère Guillaume-Marie ?
Comme vous l'avez dit, elle se manifeste assez bruyamment. On l'entend par ses rires, on voit ses sourires. Il chante, il aime bien chanter aussi, il chante faux, il déclame des vers de Dante. Et en fait, on pourrait se dire que c'est juste une joie naturelle, son tempérament. Et il y a sûrement quelque chose de cela. Mais c'est aussi une joie chrétienne. Et donc là, on passe sur un autre plan. Une joie chrétienne, ça veut dire quoi ? C'est une joie qui vient pas seulement d'un plaisir, d'une bonne nourriture.
Ou d'un bon moment partagé.
Oui, d'un bon moment partagé. Mais une joie intérieure qui vient de Dieu, qui est plus profonde et qui se manifeste aussi dans les périodes plus difficiles. Et ça, on le voit, parce que Pier Giorgio Frassati, il n'a pas vécu que des moments joyeux, il y a aussi des moments plus compliqués. Sa famille n'était pas chrétienne, ne comprenait pas vraiment qui il était, ce qu'il faisait, et donc ça, il en a beaucoup souffert. Et aussi, il y a une grande épreuve il est tombé amoureux et puis il a dû renoncer à cette Laura qu'il aimait. Et pourtant, il écrit dans ses lettres à un ami qui voulait rester joyeux pour montrer qu'un chrétien reste dans la joie.
Ouais. Dès 12 ans, Pier Giorgio communie chaque jour. Cette pratique devient jusqu'à son décès sa plus haute raison de vivre, je le cite. Hein. C'est sa sœur Luciana qui dit ça. Peut-être, Lilian Chaboud, vous pourriez réagir là-dessus. Comment cet exemple de communion régulière peut inspirer les chrétiens engagés dans le monde ?
Alors, il est vrai que Pier Giorgio Frassati est à la messe quotidiennement et ce malgré eh bien ses engagements, donc ses études, sa vie sociale. Pour lui, l'Eucharistie était la source et le sommet de sa vie, lui permettait de nourrir son engagement concret auprès des pauvres. Et cela montre en fait qu'une vie spirituelle et l'action dans le monde, en fait, ne s'opposent pas, mais au contraire, se nourrissent mutuellement. Et donc, comme chrétien engagé dans le monde, il nous rappelle que la prière, ce n'est pas juste un plus, entre guillemets, mais que c'est un vrai point d'ancrage.
Oui. Michel Roux, vous voulez réagir sur cette joie et puis cette prière aussi là.
Alors, c'est vrai qu'il lisait beaucoup, il s'est inspiré de saint Augustin et il disait qu'il en recevait une joie profonde. Il était imprégné au fil des années par les évangiles, pardon, qu'il lisait quotidiennement. Et pour lui, c'était une façon de servir Dieu dans cette joie qu'il habitait, ce qu'il appelait une joie profonde. Donc c'était au-delà des rires, des fêtes qu'il aimait faire avec ses amis.
Et des plaisanteries, ce qu'il en faisait beaucoup aussi.
Et de l'humour. et à travers ses lectures, comme saint Thomas d'Aquin aussi, et le frère a parlé aussi de Dante, ça lui permettait d'exprimer sur son visage ce sourire qu'il avait. Mais il savait aussi, quand c'était particulier, être sérieux et délicat avec les plus pauvres. Mm-hmm. Pour l'Eucharistie, c'est vrai que là aussi, il communiait tous les jours et c'était une façon pour lui aussi de servir Dieu dans cette Eucharistie quotidienne.
Mm-hmm. Frère Guillaume-Marie, vous voulez compléter ?
Oui, on présente souvent Pierre Georgiou comme un modèle de sainteté du quotidien. Et pourtant, là, c'est quand même assez extraordinaire de voir cet engagement, un peu comme Carlo Acutis qui très tôt demande à sa maman d'aller à la messe et va conduire sa maman à se rapprocher de Dieu. Là, Pierre Georgiou, lui, on sent qu'il y a vraiment cet appel intérieur très fort à venir à la messe. C'est là qu'il trouve sa nourriture. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On ne pourrait pas dire ça de tous les jeunes qu'on croise.
Oui, c'est vrai. Alors, justement, puisque vous parlez des jeunes, on va parler de cette passion de Pierre Georgiou pour la montagne. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne et surtout, comment on peut faire le lien entre la montagne et le désir de sainteté ? Frère Guillaume-Marie.
La montagne, nous qui habitons à Toulouse, elle n'est pas très loin. C'est les Pyrénées pour Pierre Georgiou. C'était aussi à la porte à côté, lui qui habitait à Turin. Et il a été initié par sa maman, assez jeune, qui l'emmenait sur les sommets. Et il y a deux façons, je dirais, d'aborder la montagne. Il y a la façon un peu consumériste, qui est de venir là comme un lieu de distraction, comme un lieu où on va se confronter à la nature, comme avec le ski, maintenant, il y avait moins à l'époque de Pierre Georgiou, mais il y avait comme un lieu presque de consommation aussi. Et Pierre Georgiou, lui, ce qu'il vient chercher en montagne, bon, il y a sûrement ça aussi, hein, le fait de se divertir, mais c'est aussi, il le répète plusieurs fois, c'est pour contempler dans la création, lui qui est chrétien, nous qui sommes chrétiens, quand on va en montagne, on n'est pas seulement là pour marcher, pour se faire plaisir, mais aussi pour contempler le Créateur. Et ça, il y revient plusieurs fois. Et il y a un autre aspect dans la montagne que Pierre Georgiou aime bien, il y va rarement seul, c'est l'occasion pour lui d'emmener des amis, de partir marcher, et là, il y a un peu cette grâce en montagne, Lilian peut en témoigner, on est dans un même groupe montagne, le club Pierre Georgiou, on part avec une quinzaine d'étudiants marcher une fois par mois, avec deux frères dominicains, dans cette même idée de vivre à la fois une expérience d'amitié en montagne et puis de prier ensemble, d'avoir cette expérience joyeuse en montagne.
Mmh. Oui, alors justement, Lilian Chaboud, vous allez nous raconter votre expérience dans ce groupe de montagne de Pierre Georgiou Frassati.
Oui, bien sûr. Alors, j'ai entendu parler de ce club via en fait une communication WhatsApp de la paroisse étudiante. Et à l'époque, je ne connaissais pas très bien Pierre Georgiou Frassati. Et c'est vrai que ces week-ends en montagne m'ont permis déjà d'en apprendre plus sur lui. Et pour compléter ce que disait le frère, effectivement, la vision de Pierre Georgiou sur la montagne, elle est très inspirante. Dans la Sainte Écriture, la montagne est souvent le lieu de rencontre avec le Seigneur. Et comme expliquait le frère, je pense qu'il y a deux dimensions en montagne. Il y a d'une part l'activité physique, la dépense, mais aussi le fait d'admirer la beauté de la création que le Seigneur a placée devant nous comme un témoignage ou une preuve de son existence. Il y a aussi, on peut la vivre seule pour avoir un temps de retraite, mais c'est vrai que c'est aussi un moment de partage et d'amitié où on peut développer de l'entraide, de la convivialité, un esprit d'équipe. Et les week-ends Frassati sont là pour nous permettre ça et de disposer aussi de la qualité des enseignements des frères dominicains qui peuvent répondre aussi à nos nombreuses interrogations. Donc, pour avoir fait quelques week-ends, moi je me rends compte que dans ma foi, ça porte vraiment du fruit.
Oui. Alors il y a effectivement tous ces aspects hein, de contemplation de la création, fraternité, entraide. On sait que Pierre Giorgio Frassati, il attendait les petits derniers de la file là. Voilà, il se mettait vraiment au rythme de chacun. Indépendamment, enfin à côté de tout ça, il y a aussi cette image de gravir un sommet comme on gravit le chemin de la sainteté. Est-ce qu'on peut prendre ce parallèle-là? Qu'est-ce qu'il veut en parler?
Oui,
Alors, frère Guillaume-Marie.
c'est une image spirituelle reprise par les pères, l'ascension. Lilian disait que la montagne dans la Bible est le lieu, un des lieux privilégiés où Dieu se révèle. On peut penser au Décalogue avec Moïse. Et dans notre vie spirituelle, on peut penser l'ascension en allant de ce qui est terrestre vers ce qui est céleste. C'est toute l'image du ciel. Et donc, et dans l'ascension, il y a aussi toute cette dimension de l'effort, de la durée. Ça se fait pas en grimper une montagne, ça se fait pas en une seconde. Dans notre vie spirituelle, il faut du temps aussi pour arriver au sommet. Et aussi, il y a cette dimension communautaire en montagne où on n'est pas chrétien tout seul, on va pas grimper tout seul par ses propres forces au sommet, mais on est vraiment accompagné. Il y a des premiers de cordée, il y a des plus expérimentés qui sont là pour nous guider. Il y a des moments plus difficiles où on a besoin de se reposer. Enfin, donc on pourrait filer toute une métaphore de la vie spirituelle à partir de l'expérience en montagne. Ouais.
Oui, c'est ça. Pierre Giorgio a dit un jour, le jour de ma mort sera le plus beau de ma vie. Et sur la dernière photo où on le voit en train d'escalader une montagne du Val di Lanzo, il a le visage tourné vers son objectif et il avait écrit vers le haut.
Verso l'alto.
Verso l'alto, exactement. Puisque vous disiez, frère Guillaume-Marie, qu'on n'est pas chrétien tout seul, et cette image de la montagne, elle le montre bien, on n'avance pas tout seul à la montagne, on a besoin les uns des autres. Vous, Michel Roure, vous êtes dans une fraternité dominicaine, et vous me disiez juste avant cette émission qu'on n'est pas chrétien tout seul. Et c'est justement l'objet de ces fraternités.
Effectivement, il existe des laïcs dits isolés, mais c'est rare parce que l'idée, c'est de vivre en fraternité avec une fraternité. Et donc à Toulouse, il y a deux fraternités, la fraternité Pierre Giorgio Frassati et la fraternité Giorgio Lapira, puisque notre groupe fraternité Frassati était grand
Nombreux.
et nombreux. Et donc il y a eu deux fraternités qui ont évolué maintenant. Nous sommes une dizaine avec un frère accompagnateur. On a la chance d'être à côté du couvent dominicain et reçus par eux lors de nos rencontres. Et donc, nous avons un accompagnateur religieux, ce qui est une chance parce qu'il y a des fraternités qui sont dans les campagnes et plus isolées et où c'est plus difficile d'avoir un accompagnateur dominicain. On se réunit à peu près une fois par mois. On essaye de vivre aussi des retraites de week-end. On a la chance d'avoir des lieux dominicains, de saints lieux dominicains, avec le monastère de Prouille des Sœurs. Et puis à Fanjeaux, il y a la maison Saint-Dominique, il y a le couvent de la Sainte Famille également. Donc ça aussi, c'est une chance pour nous. Il y a eu le chapitre des laïcs dominicains la semaine dernière, qui a suivi du pèlerinage du rosaire aussi, ou pèlerinage des dominicains. Voilà, on se réunit donc une fois par mois et la vie d'un laïc dominicain, c'est lié à la prière, bien sûr, l'étude, travailler des textes ensemble et puis, quand c'est possible, un apostolat et vivre la vie fraternelle, essayer de prendre soin les uns des autres.
Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, personnellement, dans votre foi, de faire partie de cette fraternité dominicaine?
Alors, j'ai ma famille de sang et de cœur, et la fraternité m'a apporté aussi une autre famille, la famille des dominicains. Et donc, les fraternités font partie intégrante de l'ordre des prêcheurs. Ce que ça m'a apporté, c'est... au début, quand je suis rentrée, c'était une écoute, une présence, de savoir que je pouvais téléphoner à un membre de la fraternité pour justement cette attention et cette écoute. Ça, ça a été important pour moi au début. Et puis... ça a conforté aussi ma pratique de foi avec la prière. Une sœur dominicaine m'a dit un jour, ma journée, elle commence à genoux, au pied de mon lit, par la prière. Donc ça a été aussi un exemple pour moi. Et la journée, elle peut commencer dans son lit avec un premier signe de croix pour présenter sa journée au Seigneur. Faire la même chose le soir, avant de fermer ses yeux. Remercier le Seigneur pour la journée et lui confier notre nuit, avec ce très beau cantique de Siméon.
Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller.
Voilà.
En paix selon
veille,
ta parole.
Veille sur nous, Seigneur. Oui.
Voilà. Donc finalement, cette fraternité, ça vous a appris, enfin si on peut dire, ça vous a conforté dans votre cheminement spirituel et ça vous a donné des éléments pour avancer et pour mettre en place une vie de prière. On peut dire les choses comme ça ?
Oui, oui, oui. C'est vrai que l'étude aussi de Saint-Dominique, où à chaque fois on choisit un thème pour l'année, depuis quelques années, on essaye aussi de que ce ne soit pas que le frère qui nous apporte un enseignement, mais de pouvoir s'impliquer aussi chacun. Donc, à tour de rôle, on travaille sur le livre de Thorel. Et là, je dis par exemple, c'est une de nos sœurs qui va présenter différents passages. Moi, j'ai choisi les 9 manières de prier de Saint-Dominique,
ah oui.
que je présenterai sûrement l'année prochaine. Voilà, j'ai été touchée aussi par la façon de Saint-Dominique de prier. Donc, voilà.
Lilian Chaboud, vous faites pas partie d'une fraternité laïque dominicaine, mais vous faites partie de ce groupe de montagne Giorgio Frassati. Qu'est-ce que vous vivez aussi, indépendamment de cet aspect fraternel, de cet aspect contemplation de la création, qu'est-ce que vous vivez au niveau de la prière, justement ?
Au niveau de la prière, on a l'opportunité avec les frères dominicains de réciter les offices, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des jeunes qui viennent avec nous en montagne. Certains connaissent, mais du coup, on a l'opportunité de rentrer un peu plus en profondeur dans certains textes, de chanter aussi, ce qui est vraiment une forme de prière assez importante, et d'entendre, par exemple, quand on fait des lodes avec les frères dominicains avant de partir en montagne, c'est vraiment un beau moment, un moment qui est assez spirituellement assez fort, assez élevé. Et en fait, pour nous, cette prière aussi, ça peut être un appel, à témoigner du Christ dans notre milieu de vie, à conjuguer la foi, la réflexion et l'action.
Réflexion et action. D'accord. Comment vous mixez, entre guillemets, vous articulez les trois. Je vous propose, Michel Roux, frère Guillaume-Marie et Lilian Chaboud, de nous arrêter quelques instants. Vous nous direz juste après comment Pierre Giorgio Frassati vous accompagne en fait sur ce chemin de sainteté, et notamment par son exemple de charité, hein, puisque voilà, on le disait au début de cette émission, il a contracté la poliomyélite en visitant une personne pauvre. Et puis nous retrouvons juste après. Je vous propose d'écouter Verso l'Alto, l'hymne qui a été composé pour la canonisation de Pierre Giorgio Frassati. Évidemment, on va en écouter qu'un extrait parce qu'il est assez long.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Pierre Giorgio Frassati, un modèle pour nous tous, pour reprendre l'expression de Saint Jean-Paul II. Et je précise qu'il a béatifié Pierre Giorgio en 1990. Nous sommes avec Michel Roure, membre de la fraternité Pierre Giorgio Frassati, frère Guillaume-Marie Dominicain et responsable du groupe Montagne du même nom, et Lilian Chaboud, membre de ce même groupe de Montagne. Nous avons parlé dans la première partie de cette émission, justement, de ces groupes, les fraternités laïques dominicaines et le groupe de Montagne Pierre Giorgio Frassati, donc tous les deux créés et inspirés de ce nouveau saint. On va parler maintenant de son exemple de charité qu'il nous laisse, hein, parce que Saint Pierre Giorgio Frassati, il pratiquait généreusement la charité par de petits gestes concrets, souvent cachés. Et c'est vrai que la foule des pauvres qui a été présente à son enterrement en est la preuve vivante. Comment peut-on suivre cet exemple de charité qui, pour Pierre Giorgio, n'était pas une option ? Frère Guillaume-Marie.
Justement, on parlait tout à l'heure de la sainteté un peu héroïque d'aller à la messe tous les jours, qui est difficilement imitable pour beaucoup de laïcs. Mais cette charité... Dans chaque chose, dans les petits gestes du quotidien, en se levant le matin, en croisant son collègue au travail, elle est accessible à tous et à tout chrétien. Et c'est aussi en raison de ce modèle de la sainteté dans les petites choses, je pense que le pape François puis le pape Léon XIV ont voulu présenter à notre Église ces deux modèles de sainteté qui incarnent cette modèle du sainteté dans le quotidien. Et ce qui veut nous montrer que même dans les saints plus classiques, saint Thomas d'Aquin, on peut penser que pourquoi il est saint, parce qu'il a écrit la somme de théologie, immense ouvrage
on
théologique.
On pense plus à une sainteté de l'intelligence.
On pense à une sainteté de l'intelligence, ou alors avec Jeanne d'Arc, un grand acte, sauver la France alors qu'elle est une sainte paysanne. Bon, c'est des beaux actes, c'est une sainteté un peu chevaleresque, mais ce qui, au fond, les animait, et ce qu'on voit moins directement, c'est cette charité active et que manifeste particulièrement le modèle de Pierre Giorgio.
Lilian Chaboud, comment cet exemple de Pierre Giorgio Frassati vous éclaire, vous, dans votre vie concrète, dans votre vie de charité ?
Alors, pour moi, ça nous inspire parce que... Pierre Giorgio Frassati était un jeune homme. Et c'est vrai que pour les jeunes, nous pouvons avoir une figure de sainteté à laquelle nous pouvons nous identifier. Si on regarde que ce soit Pierre Giorgio Frassati ou Saint Carlo Acutis, ce sont finalement des jeunes gens qui, entre guillemets, n'ont rien fait d'extraordinaire dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accompli de miracles, etc. Mais c'est par en fait leur vie ordinaire, entre guillemets, qu'ils accomplissaient des choses extraordinaires. Et on parlait de cette dévotion d'aller à la messe tous les jours. C'est aussi pour Pierre Giorgio Frassati l'aide auprès des plus pauvres, qui est inspirant, et qui, pour moi, m'inspire également à aider mon prochain. Ça peut être de différentes façons. Pratiquer les maraudes, par exemple, avec l'ordre de Malte. Aller aussi à la rencontre des personnes âgées qui sont parfois isolées dans une maison de retraite. Donner son temps pour donc ce club de montagne Pierre Giorgio à Frassati. Toutes ces petites activités, au final, qui sont une preuve d'amour et qui, au final, nous permettent un petit peu plus chaque jour de nous rapprocher du Seigneur. Et ce sont en quelque sorte des actes simples que l'on peut offrir au Seigneur comme une sorte de cadeau, de présent. Qui ne nous prennent pas forcément énormément de notre temps et qui nous font du bien, parce que c'est un amour désintéressé. On ne recevra rien en retour, et c'est ça, quelque part, la richesse de cette charité.
Pierre Giorgio disait « Autour des pauvres et des malades, moi je vois une lumière que nous n'avons pas ». Michel Roux, vous avez été longtemps aumônier à l'hôpital. Qu'est-ce que cette figure de charité de Pierre Giorgio Frassati vous évoque ?
Alors c'est vrai qu'à travers la lecture de sa vie, de son parcours, de son attention qu'il avait aux pauvres et aux malades, un moment de ma vie où j'ai été en plein discernement pendant une année, dite peut-être sabbatique, mais en tout cas de recherche, J'ai fait diversion, j'ai beaucoup prié la prière de Charles de Foucault, « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. » Et j'ai rencontré au couvent des frères un frère qui visitait les malades à Rangueil, et j'ai fait partie du groupe Santé Saint-Luc, hein, je peux le citer, pendant quelques années. Et là, j'ai senti que j'étais appelée, peut-être. En tout cas, que je pouvais être dans cette démarche d'aller vers les plus fragiles qui vivaient ce temps de maladie. Et j'ai fini par m'engager en aumônerie. Ça a duré un certain temps. Et là, j'ai trouvé, effectivement... la joie profonde qu'a pu vivre Pierre Giorgio. C'est-à-dire qu'au moment des temps de prière avec les personnes malades, de sentir que le Seigneur était là vraiment au milieu de nous et que la personne visitée et moi-même, parce qu'on donne bien sûr, mais on reçoit beaucoup plus que l'on donne, et de pouvoir ressentir cette joie profonde qui m'a habitée et qui continue à m'habiter, parce que dans le cœur, je reste toujours proche des malades. À un moment donné, j'ai eu envie aussi d'être proche d'eux à travers les gestes. Et donc, je me suis engagée au pèlerinage du Rosaire pour prendre aussi soin du corps. C'est épuisant, mais c'est quelle belle mission. Voilà.
Léon XIV, lors de la canonisation de Pier Giorgio Frassati, a dit que Pier Giorgio appelait la charité le fondement de notre religion. C'est pas rien quand même, hein. Ouais. Alors, il y a un détail qui est très beau. Pier Giorgio Frassati avait recopié l'hymne à la charité de Saint-Paul et il le gardait en permanence dans sa poche. Et vous savez, c'est ce passage, « Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » Comment ce texte résonne-t-il en chacun de vous ? On peut commencer par vous, Lilian Chaboud ?
Oui, alors, pour Frassati, c'est vrai que ce texte résume tout l'Évangile, c'est-à-dire en fait la charité qui est le sommet de la vie chrétienne. En fait, ici, ce n'est pas un simple sentiment, mais c'est aussi un engagement concret, patient et désintéressé, comme je soulignais précédemment. Frassati vivait cette charité dans le service, en recherche de reconnaissance. Et personnellement, ce texte peut m'interpeller en me faisant poser deux questions. La première, c'est finalement qu'est-ce que aimer pour moi signifie. Et deuxièmement, dans quel geste concret est-ce que je peux manifester une vraie charité qui n'est pas seulement affective.
D'accord. Et comment vous répondez à ces deux questions? Qu'est-ce qu'aimer signifie? Ah, vous avez 4 heures. Ben non, même pas.
On va éviter de faire une réponse trop longue. Mais finalement, qu'est-ce qu'aimer signifie? Pour moi, je pense, voilà, à l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de mourir pour ses amis. » Je pense que c'est l'enseignement le plus grand du Christ. Et c'est une phrase voilà, qui résonne beaucoup et qui résume à elle toute seule finalement le geste du Christ pour nous. Et dans quel geste concret on peut manifester cette vraie charité? Mais comme je soulignais précédemment, via les mouvements associatifs, où il y a un autre passage de l'Évangile, je ne saurais pas me rappeler lequel c'était, il me semble que c'est dans l'Évangile de Saint-Luc, mais qui disait en fait que en fait, si on retournait l'invitation à une personne qu'on connaît, ça serait entre guillemets un don, mais si on le fait pour quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qui n'aura pas les moyens de nous retourner cette invitation, eh ben, ça nous sera rendu au centuple au ciel. Et je pense que voilà, ça passe par les mouvements associatifs, donner un peu de son temps pour les sans domicile fixe, les enfants malades.
La charité en action. Frère Guillaume-Marie, cette hymne à la charité de Saint-Paul que Pier Giorgio portait dans sa poche, comment ça vous guide?
Très exigeant comme texte. Oui. Un frère disait que ça pouvait servir d'examen de conscience, parce qu'on a toutes les... en positif, tout ce que l'amour fait, et on voit que l'amour ne fait pas qu'aimer, mais est très actif, ne jalouse pas, ne cherche pas son propre intérêt. Et donc, quand on lit ce texte, on mesure la distance qui nous reste encore à parcourir pour aimer comme Dieu aime et comme il veut qu'on aime. Et aussi, plus concrètement, Ça me pose une question, c'est dans toutes mes actions, pourquoi est-ce que je fais cela dans mon devoir de théologie? Est-ce que c'est juste parce qu'on me l'a demandé dans le cadre de mes études? Aller en montagne, c'est mon apostolat, entre guillemets, c'est mon devoir de frère d'être là pour ce groupe. Mais tout cela ne sert de rien si ce n'est pas porté par la charité. Et c'est là l'essentiel, et c'est là une difficile mission d'essayer de revenir toujours à Dieu qui nous donne d'aimer comme il a aimé.
Oui, parce qu'on a toujours envie de se servir soi-même quand même en premier. Hein.
Oui. Ouais. Ou de faire ça juste parce que, bon, bah, comme ça, j'ai un week-end, j'ai fini, je barre ça sur mon agenda, ouais. On passe à autre chose.
Oui, c'est ça. Ouais. Se dire pour quitte, c'est ça. Ouais. Michel Roux.
Alors ce texte, moi, il me touche particulièrement puisqu'il faisait partie, et il fait toujours partie sûrement, du livret de préparation au mariage. Mmh. Et donc c'est un texte qu'avec Jean-Marc, nous avions choisi il y a plus de 44 ans et qui m'habite encore parce que l'amour rend service. Je crois que ça fait partie de ma personnalité de service. Et par des tout petits gestes du quotidien, un sourire, une main tendue, une attention à l'autre. C'est exigeant, comme le disait le frère, c'est très exigeant. Mais voilà, c'est un texte, oui, qui prend toute sa forme dans chaque geste du quotidien.
Mmh, oui. Saint Jean-Paul II expliquait que le goût du beau et de l'art, la passion pour le sport et pour la montagne, l'attention accordée aux problèmes de la société n'empêche pas son rapport constant avec l'absolu. Il disait ça évidemment de Pierre Giorgio Frassati au moment de sa béatification. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce modèle de sainteté de Pierre Giorgio, c'est cet équilibre entre prière et engagement. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, Frère Guillaume-Marie?
La première chose, c'est que Pierre Giorgio Frassati, il faut regarder qui il est, c'est pas un prêtre, c'est pas un moine, même pas quelqu'un qui a une situation stable, qui travaille. Il voulait devenir ingénieur des mines, mais il est mort avant d'avoir son diplôme. Et donc il est étudiant, et donc sa première tâche en tant qu'étudiant, c'est d'étudier. Et Pierre Giorgio, il aime pas tellement, il rechigne à l'effort, c'est difficile pour lui d'étudier, donc il y passe pourtant... pas mal de temps sur son bureau, c'est ça son devoir, et il le fait. Il se plaint dans une lettre de devoir rester à Turin alors que tout le monde part en vacances. Mais bien sûr, à côté de sa vie d'étudiant, et dans sa vie d'étudiant, il y a cette vie de chrétien et cette vie de charité. Et l'équilibre à trouver n'est pas évident, parce qu'on aurait envie, surtout quand on est passionné comme Pierre Giorgio, de donner toute la place à cette vie de foi, de prière et de charité. Et pourtant, c'est pas sa vocation concrète de maintenant d'étudier. Enfin, quand on est étudiant, c'est ce que Dieu veut d'abord pour nous. Et bien, c'est de vivre notre vie d'étudiant avec cet amour dans les petites choses, cette prière en dehors des cours. Donc, il y a cette tentation de faire trop de choses, de devenir religieux alors qu'on est encore dans le monde. Et Pierre Giorgio, je trouve, reste assez équilibré justement là-dessus.
Oui, parce qu'il reste à sa place dans son devoir d'État.
Exactement.
Vous, Michel Roux, en tant que marié depuis 44 ans, c'est ça?
Oui.
Comment vous vivez ça? Enfin, comment cet exemple de Pierre Giorgio vous parle?
Pour moi, l'engagement, c'est la prière. Ça commence par ça. On s'engage à différents niveaux dans sa vie, mais ce premier engagement de la prière place déjà sa journée sur une autre dimension. Après, oui, il y a l'engagement du mariage, de ses vœux de mariage. Il y a l'engagement aussi dans la fraternité. On est responsable de ça. Et on parlait de charité et d'amour. C'est une décision qu'on prend tous les matins, d'avoir ce regard dans sa famille, puisque là aussi on nous a toujours dit en tant que laïc que votre première place c'est la famille.
Oui, il faut pas se tromper de devoir d'État. Hein.
Exactement. Donc faut pas que la fraternité prenne trop de place par rapport à sa vie personnelle et familiale. Mais ça reste quand même un engagement. Et qui dit engagement dit fidélité. Et rester fidèle à la prière du quotidien, même si c'est difficile. Moi, personnellement, la liturgie des heures, j'ai du mal. Déjà, j'ai du mal avec le livre lui-même. Et donc, merci les applications sur le téléphone, le matin ou le soir pour les laudes ou les complices, c'est bien pratique. Et puis, y a des réseaux hein, aussi pendant le Covid. Tu parlais du Covid tout à l'heure, Isabelle. De pouvoir suivre en direct sur YouTube ou Facebook les offices du couvent. Voilà, c'était une façon d'être relié, d'être en lien avec sa famille dominicaine.
Mmh, oui, oui. Et pour vous, Lilian Chaboud, et ce sera vous qui terminerez cette émission sur ce lien, cet équilibre entre prière et engagement.
Alors c'est vrai que, comme disait le frère Pierre-Jean Frassetti, réussit à unir une vie intérieure et une vie active. Il prie beaucoup et il agit tout autant. Et sa force spirituelle vient de cette vie de prière. Donc sans elle, son engagement s'épuiserait. Et finalement, c'est la même chose. C'est la même chose pour nous. Ça nous montre en fait qu'on ne choisit pas en fait entre contemplatif et actif. En fait, les deux sont indispensables. Et pour moi, même si on peut être pris dans les engagements du travail, dans l'associatif, le temps personnel pour le sport ou encore ses amitiés. Je fais en sorte de ne jamais manquer l'appel à la prière. Le matin, je profite des transports en commun quand je me rends au travail pour réciter un chapelet. Le soir, je profite pour faire les complis. Donc, l'office du soir, on parlait de ce cantique de Siméon tout à l'heure qui permet vraiment de s'endormir en paix et qui, en tout cas, moi, me permet d'avoir une nuit complète. Donc je ne manque jamais cet appel parce que c'est vrai que cette prière, c'est un moment qui est vraiment important pour tout chrétien, de consacrer du temps dans sa journée pour parler au Seigneur et pour obtenir de la force pour avancer justement dans tous ces engagements qui nous prennent beaucoup de temps. Mais en fait, il faut qu'il y ait un équilibre hein, et pas que l'un empiète sur l'autre. Donc voilà.
Et oui, et ce qu'on disait aussi de Pierre-Giorgio Fassati, le Christ le visite dans l'Eucharistie et il lui, avec une majuscule, il lui rend visite en aidant les gens démunis. Donc on voit vraiment ce lien entre la contemplation et l'action, comme vous disiez. Alors, petite précision pour connaître les fraternités laïques dominicaines, il suffit d'aller sur le site www.laici.op.org, là ici ça s'écrit LAICI.op comme l'ordre des prêcheurs et .org. Et puis en conclusion, on va écouter cette phrase du pape Léon XIV le jour de la canonisation de Pier Giorgio Frassati. La vie de Pier Giorgio est une lumière pour la spiritualité laïque. Voilà, puisse-t-elle inspirer ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci à vous trois, Michel Roure, Frère Guillaume-Marie et Lilian Chaboud. Vous avez témoigné aujourd'hui de la façon dont Saint Pier Giorgio Frassati vous guide dans votre vie spirituelle. Merci à tous les trois.
Merci.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.